France Musique.
C'est l'heure de Tendez l'oreille avec Christophe Dillis. Bonjour Christophe.
Bonjour Gabriel, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, un petit voyage de 10 minutes. Au XIIe siècle, vous nous parlez de l'école de Notre-Dame.
Oui Gabriel, depuis lundi, les libraires observent une énorme augmentation des ventes de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Les réseaux sociaux partagent beaucoup cette citation.
Tous les yeux s'étaient levés vers le haut de l'église. Ce qu'ils voyaient était extraordinaire. Sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il y avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers avec des tourbillons d'étincelles. Une grande flamme désordonnée et furieuse dont le vent emportait par moments un lambeau dans la fumée.
Voilà, nous avons tous nos réflexes de deuil, de gestion de l'émotion. Certains prennent d'assaut les réseaux sociaux et certains jouent aux faux experts pour effrayer les gens. Les rosaces sont perdues, ah, l'orgue a fondu, etc. Et étrange façon, mais façon quand même de participer à un forum qui tout à coup nous rapproche de l'autre. Faire pleurer les autres, c'est les faire pleurer avec soi sans doute. Mon réflexe à moi, je n'ai pas eu à le chercher bien loin. En tant que musicien de musique ancienne, j'ai réouvert mes partitions du XIIe siècle comme on réouvre la porte d'une cathédrale qui, elle, sera toujours debout tant qu'il existera des musiciens pour la faire vivre. Ma chronique d'aujourd'hui, ce sera donc ça. Faire un petit voyage musical et technique dans la musique à Paris au XIIe siècle, la fameuse école de Notre-Dame. Déjà, l'école de Notre-Dame, ça n'est pas un groupe de compositeurs, ça n'est pas une école, et ça ne se passe pas vraiment à la cathédrale de Notre-Dame. C'est plutôt un style présent un peu partout en Europe. Par exemple, là, ce qu'on écoute, c'est le manuscrit de Las Huelgas.
Alors pourquoi l'appeler École de Notre-Dame?
Parce que même si la cathédrale n'était pas tout à fait terminée, il y a eu toute une partie de cette école, ou plutôt de ce style, qui a pu se pratiquer aux offices dès les premières ouvertures au public, avant même la fin complète de la construction de la cathédrale. Donc, mais une bonne partie de cette école n'a en réalité pas composé à la cathédrale. Là, au moment où le terme a été forgé, les recherches était concentré sur les travaux de deux figures parisiennes qui ont œuvré au moment de la construction de la cathédrale et dont les noms ne nous sont pas tout à fait inconnus, Léonin et Perrotin. Anonymous IV, la seule source pour ces deux compositeurs-là, en parle en 1274 comme Optimus Organista pour Léonin et Optimus Discantor pour Perrotin.
Optimus Organista, meilleur organiste ?
Oui, mais pas dans le sens joueur d'orgue, mais plutôt dans le sens compositeur d'organa.
Ah, il n'y avait pas d'orgue à cette époque dans la cathédrale ?
Eh bien si, mais il ne s'agissait pas du gros instrument fixé à la tribune comme nous pouvons le voir aujourd'hui. Dès le XIIIe siècle, on sait qu'il y avait un grand orgue, quelque part, suspendu en nid d'hirondelle sous une fenêtre haute. Et c'est en 1401 qu'on décide d'installer un grand orgue sur la tribune de pierre au-dessus du grand portail ouest.
Est-ce qu'on sait comment sonnait l'orgue à l'époque de Perrotin ?
Alors, il est assez probable qu'il utilisait un orgue portatif en bandoulière, avec la main droite sur le petit clavier et la main gauche qui actionnait le soufflet. Instrument relativement petit, avec des tuyaux d'orgue, c'est vraiment un orgue miniature qu'on peut encore entendre aujourd'hui.
Mais alors, concernant la polyphonie, il y en avait déjà avant l'école de Notre-Dame ou pas ?
Absolument. Les premières notations dans les traités théoriques datent de la moitié du IXe siècle. Le Troper de Winchester de la fin du XIe siècle possède déjà de très belles pages de polyphonie.
Oh.
Par contre, ce que l'école de Notre-Dame a fait, c'est qu'elle a produit des manuscrits, notamment le Magnus Liber Organi, le grand livre des organa. Elle retranscrit les improvisations, elle fixe les formes, elle élabore des formules rythmiques. Par exemple, l'organum purum. Ça, c'est une des grandes formes de l'école de Notre-Dame. Le principe, prendre une mélodie grégorienne, l'étirer en notes très très longues.
Comme des points d'orgue.
Oui, et d'ailleurs, je me demande si ça ne vient pas de là d'ailleurs. Et on donne cette voix-là au ténor, la partie teneur, la personne qui tient les notes, et faire improviser quelqu'un par-dessus. Chaque note de la mélodie grégorienne devient une sorte de basse. Et après, c'est aux deux ou trois ou quatre autres chanteurs de se mettre d'accord d'un geste sur les points de rencontre. Le ténor, celui qui a la mélodie grégorienne connue, n'improvise pas, ce qui permet aux chanteurs de prévoir leurs notes d'arrivée, leurs points de rencontre. Tendez l'oreille dans ce Benedicamus Domino. Écoutez bien la partie de basse. Un organum purum avec le ténor qui décompose en notes très longues une mélodie grégorienne pendant que de façon non mesurée, une voix chante par-dessus. Quand on dit que Léonin était Optimus Organista, ça se réfère à cette forme-là. Il termine ensuite par une clausule. Là, le ténor devient beaucoup plus rythmique, beaucoup plus mesuré, comme on dit. Il faut un peu plus se mettre d'accord avec l'autre chanteur. Quand on dit que Perrotin était, lui, un Optimus Discantor, ça se réfère à cette forme musicale-là. C'est de cette clausule, cette section rythmique, cette section qu'on appelle mesurée, que commence à poindre le rythme tel qu'on le connaît aujourd'hui et qui permet de faire de la musique ensemble. Jusque-là, au XIIe siècle, on fonctionnait sous forme de mode rythmique, un assemblage tout fait de brèves et de longues regroupées ensemble. On n'avait pas encore cette possibilité d'avoir une valeur rythmique toute seule en soi. Ces modes rythmiques, on les entend très bien dans les clausules qui viennent ponctuer la fin des organums, comme on peut l'entendre ici. Ces clausules vont devenir un genre à part entière, le motet, littéralement petit mot, qui reprend le caractère mesuré de ces cadences qui venaient clore les organums. Et puis, plus le temps passe, plus on divise ces modes rythmiques en longues, en brèves, en semi-brèves, en semi-minimes, tout ce qui permet de mieux noter la polyphonie, ces ancêtres des rythmes qu'on connaît aujourd'hui. Et il y a comme ça un aller-retour assez chouette entre l'écriture comme retranscription de l'improvisation et écriture comme composition d'une musique qui demande à être interprétée, qui permet de multiplier les voix qui chantent ensemble. Thank you. Le Widerunt Omnes de Perrotin par l'ensemble Iliard dirigé par Paul Hillier. Alors évidemment, en 10 minutes, on peut ne faire qu'un rapide coup d'oreille sur tous ces styles. La réalité est bien plus complexe, bien plus belle, bien plus humaine. Il y a une énorme marge laissée à la spéculation. Méfions-nous des certitudes lorsqu'il s'agit de traiter une musique aussi ancienne, mais une chose est certaine, la cathédrale est construite comme un reflet de l'architecture céleste. La musique à cette époque est le reflet de l'harmonie du monde. Boès dit que le monde est le nombre rendu audible, que la musique est le nombre rendu audible. Il y a donc dans cette musique quelque chose d'intimement lié à ces pierres qui nous ont fait peur lundi. Je voudrais remercier mon ancienne collègue de paléographie musicale, Raphaël Soumenias, pour m'avoir rafraîchi la mémoire sur ces notions-là.
Merci beaucoup Christophe Idis. Chronique Tendez l'oreille à réécouter sur notre site francemusique.fr et je vous dis à samedi prochain.
Bonne semaine.
Merci. Merci pour votre programmation, chers auditeurs. Merci à l'équipe de France Musique et à vous, Déborah Dagobert, Morgane Danan, David Travailleur et Marion Guimet. Quant à vous, continuez à nous écrire sur notre site francemusique.fr, sur le mail francemusique@radiofrance.com et sur les réseaux sociaux de France Musique, Instagram, Facebook et Twitter. Nous vous attendons. Je vous souhaite une très belle journée sous le soleil. Dans quelques instants, vous retrouvez Benoît Dutertre. Étonnez-moi, Benoît.
À réécouter sur francemusique.fr.